France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Le journal de ma vie. Une série d'Adila Benedjaizou. Tout de suite, Amandine, elle.
Je suis peut-être tombée amoureuse de lui parce qu'il avait toujours la bouche sucrée. À cause du calva, la bouche sucrée. À cause du whisky, à cause du Ricard. Sucrée la bouche. L'odeur de l'alcool dans la bouche des hommes m'a toujours excitée. Il fallait bien écrire tout ça. Ni sans savoir bien pourquoi, ni comment, mais il faut bien l'écrire pour ne pas oublier.
On connaît tous la légende du clown triste. Celui qui fait rire tout le monde, mais qui est submergé par la mélancolie.
J'ai un post-it sous les yeux, c'est le jaune là en bas.
Le journal d'aujourd'hui est celui d'une clown triste.
Là.
Amandine Lourdel, que vous connaissez sûrement pour ses chroniques et ses spectacles.
J'aime pas les hommes déconstruits, j'aime les hommes détruits.
Amandine est une des femmes les plus drôles que j'ai jamais entendues. Mais en 2017, elle ne pense pas encore à faire du stand-up. Elle retourne vivre chez ses parents après une histoire d'amour violente et destructrice. Le journal de ma vie. Amandine, elle.
Et je pense que je retrouve des affaires chez mes parents et je retrouve ce cahier.
Pour tenter de comprendre ce qui lui est arrivé, dans quel état elle est, elle noircit les pages d'un ancien cahier de classe.
Et la première phrase du cahier qui est « Write yourself, you will survive ».
L'expression revient plusieurs fois dans le cahier, comme un talisman ou un programme.
À gauche c'est blanc et à droite c'est quadrillé. J'aimais bien. Donc quand je le retrouve, je décide d'écrire... Ce qui se passe à ce moment-là.
Ce cahier raconte ce qu'elle a vécu. C'est le journal d'une femme qui se sert de son éloquence pour détailler avec précision ce qui l'a fait souffrir. Et en écrivant, peu à peu, Amandine se réinvente. Mais au moment où ce journal commence, elle est encore une jeune comédienne qui vient de quitter son amoureux, Antoine, sur un coup de tête. Elle a fui son couple comme on fuit un pays en guerre.
Il y a eu un point de non-retour un jour. On était vraiment dans une relation très, très toxique. On se disputait beaucoup. Il y avait des scènes un peu violentes et tout. Et un jour, à Bordeaux, on était en week-end. On était dans un Airbnb et il a eu un mouvement assez violent. Il m'a lancé une bouteille d'eau de Perrier, je crois, remplie d'eau. Et il l'a jetée sur moi et j'ai réussi à l'esquiver. Elle est venue s'écraser sur le mur derrière. On était sous, je pense. Et j'ai vraiment une espèce de montée de survie, quoi, de me dire, il faut absolument que tu sortes de cet endroit maintenant, parce que t'es vraiment en danger. Donc, je suis partie, je suis allée dormir tout habillée dans un hôtel, je me suis payée une chambre d'hôtel, il était 3h du matin. Et le lendemain matin, je me suis dit, je peux plus, là, j'avais plus la force, je pouvais pas rentrer à Paris, je pouvais pas le revoir, je pouvais pas reprendre le travail, je pouvais pas, et donc, j'ai appelé ma mère, et j'ai dit à ma mère, est-ce que je peux venir? Elle m'a dit, ouais, bien sûr. Pas Paris, ne pas aller à Paris, il l'occupe tout entièrement. Je vois Paris tout entier, enserré dans les bras de A. Il s'enlève un reste de cocaïne de sa narine gauche avec le bout de la tour Eiffel, et je n'ai pas le droit de franchir le périphérique. Antoine, c'était mon amoureux quand je travaillais au Souriant. C'était mon amoureux, est-ce que c'était vraiment une histoire d'amour, je sais pas. Mais ça a été une histoire un peu difficile dans ma vie, qui a été déterminante pour tout ce qui s'est passé après, en fait, ça a énormément construit et influencé ce que je suis devenue aujourd'hui. Et tout d'un coup, revenir à Paris, c'était pas possible parce que pour moi, ça symbolisait tellement lui, ce que j'avais été avec lui. Puis on traînait beaucoup, en fait. On était des traînards, quoi. On était dans la rue, quoi. On était des piliers de bar et on traînait dans la rue au bord du canal tout le temps, tout le temps. Et j'avais l'impression qu'il m'avait volé ma ville.
Alors, pour ne pas retourner à Paris, Amandine réécrit l'histoire. On est temps à l'avoir fait. On réécrit l'histoire pour comprendre où ça n'a pas marché, parfois pour le plaisir masochiste de la faire exister encore. Surtout, pour essayer de donner un sens à la douleur. Et l'histoire d'Amandine commence l'été où elle rencontre Antoine, avec qui elle travaille comme serveuse dans un bar au nom accueillant, Les Souriants. À l'époque, elle est en couple avec un autre homme, Gaëtan. Elle écrit. Gaëtan et moi, nous disputons beaucoup.
Beaucoup trop. C'est son anniversaire. Il vient me chercher au travail. Antoine est là, avec deux autres types. Les garçons parlent de leur virée d'hier soir. Nous devons aller au restaurant. J'ai envie de rester là avec les trois autres. Ils me font rire. Gaëtan, c'était mon amoureux. On était ensemble dans la même école de théâtre. On est ensemble depuis 2 ans. Et 2 ans, c'est ma limite, moi, je pense. Et ça commence à être pas bien. Il voulait faire de la musique, il voulait faire du théâtre. Il était livreur à vélo. Moi, j'avais monté une compagnie, on avait des projets de théâtre. C'était très précaire, hein, vraiment. On avait des projets, on répétait dans des lieux où les salles de répète, elles sont un peu pourries, mais pas chères. On payait personne. C'était vraiment les prémices d'une compagnie, quoi. Et c'était dur, hein. Franchement, quand j'y repense maintenant, on était courageux, quand même. Il était pas assez rigolo, je pense. Tu vois. Bon, ça va, moi, j'étais un peu rigolote pour deux, mais j'avais envie qu'il y ait plus de rock'n'roll dans ma vie, quoi. Je bossais dans un bar et j'avais toute une bande de collègues et on commençait vraiment à bien s'entendre. On commençait un peu à être une sorte de bande là avec Antoine et tout. Et vraiment, on passait des super journées, des super soirées. Et tu sais, j'avais ce truc, toute ta vie c'est super, tu rentres chez toi et ton couple, c'est nul. Je me souviendrai longtemps d'un vendredi après-midi, jour de cave au Souriant, où Antoine postait en haut de l'escalier. Entre le bar et la cave où transitaient chaque semaine des milliers de degrés d'alcool, il savait bien que j'étais là à quelques mètres de lui, que je pouvais voir son corps dépourvu de t-shirt et découvrir pour la toute première fois tous ses dessins ancrés sur sa peau, son corps un peu musclé et encore un peu mince d'où s'envolait timidement mais fièrement une hirondelle sur son épaule. Tatouage le plus marquant et le plus beau pour moi. Il m'est d'ailleurs depuis la vue de ce tatouage impossible de voir et regarder une hirondelle, pardon. Frappé contre le mur pour rappeler les mains de fois où mes doigts sont passés sur ce dessin, le chérissant autant si ce n'est plus que ma propre existence. Parce qu'elle est là la réalité, sans jamais comprendre ni pourquoi ni comment Antoine restera, et j'imagine pour encore une bonne décennie, le moteur et la flamme la plus incandescente que j'ai eu l'occasion de croiser dans toute ma chienne de vie. Putain, ouais, je le kiffais. Mais d'ailleurs, je sais pas pourquoi lui se l'est fait faire et pas moi, mais Antoine, sur le bras, il a un double A comme ça, pour Antoine et Amandine. C'est trop marrant comme on est sortis ensemble. Le moment où on allait s'embrasser pour la première fois avec Antoine, il y a quelqu'un qui a eu un accident de scooter en face de nous. Vraiment, nos bouches étaient à 1 cm et il y a un type qui a foncé dans une bite en face, quoi, et qui s'est éclaté contre les poteaux. Il s'est relevé. Et en une fraction de seconde, je me suis dit, c'est un signe, ça, non? Tu vas pour embrasser quelqu'un, il y a quelqu'un qui a un accident en face de toi, peut-être ne le fais pas. Je l'ai fait quand même, et en fait, c'est un signe. Il était super au début, franchement. En plus, il était barman, il était derrière le bar. C'était un bar, il y avait une super ambiance. C'était la Coupe du Monde cet été-là, en plus. 2016, c'était la Coupe du Monde. Ouais, il était super, il parlait fort, il faisait des blagues. Il était vraiment lumineux, quoi. Tout le monde nous disait, vous avez une nouvelle lumière, tous les deux. Tout le monde nous disait, vous êtes beaux, qu'est-ce qui vous arrive, et tout.
Mais au moment où Amandine remplit son cahier, la magie du début a laissé place à la souffrance. Et comme on l'a aussi toutes et tous fait, elle se dit que c'est chez elle qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle écrit.
J'ai perdu 12 kilos. 12 kilos de larmes. Pas assez mince, pas assez belle. Si je suis plus mince, je suis plus belle. Si je suis plus belle, il m'aimera plus. S'il m'aime plus, il est heureux. S'il est heureux, il arrête de boire, de s'en foutre plein le pif, alors plus de conflits. Il arrête de hurler, il arrête de dire ta gueule. Il sourit le matin, il veut faire des choses, il veut vivre, il veut faire l'amour, te faire l'amour, parce que tu es belle et mince. Je savais que c'était un type fragile, vraiment, je le savais déjà. Et soudainement, les premiers jours, les premières semaines, j'ai senti que chez lui, ça, et chez moi aussi, mais moi j'allais moins mal, ça a créé une espèce de... Il était complètement revigoré de notre amour. Je sais pas, il avait un vélo, il avait fait réparer son vélo... Il apparaissait plus le jour que d'habitude, tu vois, on faisait des trucs la journée, on avait des potes, c'était l'été, on faisait du vélo, il y avait vraiment un truc de pulsion de vie, quoi. Je chantais chez lui, chez moi, on tombait amoureux, quoi. Il y avait vraiment un truc très mignon, quoi. Moi, à cette époque-là, je me droguais pas du tout, jamais, j'aimais pas du tout les gens qui prenaient de la coke. Et lui, il m'a dit au début, je chantais quand il y en avait, au début qu'on se fréquentait et tout, il disait non. Je me suis dit, ah, ça y est, je l'ai sauvé, quoi, j'étais vraiment dans un truc hyper naïf. Et puis, il y avait déjà des petits trucs, tu vois. Je sentais que, par exemple, sexuellement. Moi, le début des histoires d'amour, je trouve ça vraiment des moments incroyables à vivre dans la vie. Et puis lui, il n'y avait pas trop ça. Il n'avait pas de découverte de l'autre et tout. C'était un peu plan-plan, quoi. Et bon, moi, je me disais, bon, bah, ça va arriver. Puis en fait, non, ça n'a jamais vraiment décollé. Et donc, j'ai commencé à me dire que c'est parce que je n'étais pas assez bien. Et puis en fait, moi, tu sais, je suis la meuf, j'ai toujours 5 kilos de trop. Tu sais, au début, quand t'es amoureux, t'as pas faim et tout. Donc, j'avais pas mal maigri au début. Et puis, quand ça a commencé à partir en vrille, j'étais sous les minces, quoi. J'étais une espèce d'alcoolorexie permanente, quoi. On faisait que sortir et se faire du mal et je mangeais plus rien, quoi. Et j'avais ce truc de, bon, bah, si je maigris beaucoup, je vais être super belle et puis il va revenir. Alors qu'il m'a dit, t'es trop maigre et t'es trop molle, ta peau, elle est devenue molle, quoi.
Plus Amandine écrit, plus elle comprend. Mais son cœur ne va pas aussi vite que sa tête. Elle n'arrive pas à oublier Antoine. Et un beau jour, alors qu'elle est toujours chez sa mère, elle craque et compose son numéro.
J'ai téléphoné. 3 semaines de silence. Mes doigts sont allés trop loin. 06, 50. Mes doigts sont allés trop vite. Il va bien. Tu n'existes plus. J'ai l'impression qu'on se parle comme des inconnus. Et j'ai failli m'excuser. Tu me dis, je veux bien qu'on se parle, mais je veux pas qu'on s'embrouille. Voilà pourquoi j'aurais dû m'excuser. Pour le dernier coup de fil, parce que j'avais pleuré, parce que j'avais dit, après tout le mal que tu m'as fait, pardon, ta gueule, pardon. Je pense qu'il m'a beaucoup dit ta gueule, en fait, et que je l'ai retranscrit. Je crois que je l'ai plus maintenant, mais j'ai longtemps eu le syndrome du sauveur, en fait, quoi. Les mecs qui vont mal, vraiment, ça me... Oh là là, mon Dieu. Lui, il avait vraiment une vie pas facile. Il avait perdu sa maman. Il avait appris qu'il avait des frères et sœurs hyper tard. Il avait une histoire chelou, quoi. En fait, il avait ce truc où il buvait vraiment beaucoup. Et il avait des trucs, des cerveaux qu'on trop consommait. Et il y a des moments où il était plus là du tout, quoi. Il tenait debout, mais il y avait plus personne. Et j'ai vraiment des souvenirs, même à des soirées où moi, j'étais pas... Tu sais, il rentrait pas et tout, je commençais à m'inquiéter. Au d'un moment, je captais où il devait être. Je l'ai porté, en fait, pour le ramener à la maison et tout. Enfin, c'était dur de le voir comme ça. C'était dur, mais je pense que ça me valorisait aussi, quelque part, de m'occuper de lui comme ça. Il y avait quelque chose de l'ordre de la maternité, ouais. Une fois, après une soirée, moi, j'étais à un concert, je le rejoins à un anniversaire et tout. Et en fait, je me réveille le lendemain matin. Et il y a personne à côté de moi, et il y a du sang sur l'oreiller à côté de moi. Et je me lève et il est dans le salon et il s'était fait péter la gueule et il était dans un état. En fait, il avait des lunettes et les mecs lui avaient mis une droite et ça avait cassé le verre de ses lunettes dans ses yeux. Donc, il avait un de ses yeux tout le blanc, il était en sang. Vraiment, il était ravagé, quoi. Et il voulait pas aller à la police, il voulait pas aller à l'hosto. Parce qu'en fait, on bossait dans le même bar et lui, il avait, en fait, un jour, il a décrété que s'il fallait qu'il arrête de boire, il fallait qu'il arrête de travailler dans un bar. Donc, il a démissionné. Moi, je suis restée un peu. Et en fait, il a juste traversé le comptoir. Parce qu'il venait autant, mais juste, il était de l'autre côté du comptoir. Et le truc, c'est que c'était un mec qui était tellement éteint quand il n'était pas sous produit, que quand tu passes une journée comme ça avec quelqu'un qui est triste, qui est éteint, qui parle pas beaucoup, qui est pas là, et tu te dis, OK, donc en fait, pour le réveiller, il faut qu'il boive ou qu'il prenne des trucs. Bah en fait, au bout d'un moment, j'étais là-bas, viens, on va boire un verre, en fait. Pour qu'il soit bien, pour qu'on soit bien, pour qu'on rigole, pour qu'on se retrouve. En fait, c'était bizarre, c'était comme si j'étais avec deux personnes, en fait. Et donc, on a été pris dans cette espèce de tourbillon, de dégueulasserie, quoi, et rien n'allait. On ne parle pas beaucoup. Tu parles, je pose des questions, tu me racontes tout, ou beaucoup. Trop, tu as dit plus tard. Plus tard, tu as dit « j'aurais jamais dû t'en dire autant sur moi ». Parce que tu disais que je m'en servais contre toi, que j'étais méchante. Je peux être très méchante. J'ai complètement arrêté le théâtre et tout. J'ai un peu décroché ma vie, quoi. Et il y a des périodes où moi, j'étais fatiguée, je rentrais. Et bon, c'est là, tu vois, au bout de 2 mois, il a commencé à rentrer. À me dire « ouais, j'arrive, t'inquiète ». Et puis à rentrer à 5 heures, arrachée et tout, quoi. Et là, pareil, il y a eu des soirées, je me souviens de scènes ultra violentes, quoi. Moi, je suis là avec des gars que je connais pas, enfin, des gars qui sont pas trop mes potes. Je suis pas contente d'être là, j'ai envie de me casser. Antoine, il fait sa soirée, il est bien et tout. Et à un moment, il y a de la coke sur la table de la cuisine. Et là, je me suis dit, OK, bah, nique sa mère, en fait. Genre, là, je m'ennuie. Je suis comme une potiche dans un coin, là, je sais pas quoi foutre de moi en attendant que l'autre il ait fini sa soirée. Si c'est si bien que ça, la coke et que tout le monde est heureux, bah en fait je vais en prendre. Et c'est là la première fois que j'en ai pris avec lui. Mais je me souviens, après on est parti, et sur le chemin je lui ai dit, ça y est, j'en ai pris, c'est de ta faute. Et lui, il était en mode, non, bah c'est bon, je t'ai forcé à rien, t'es grande. Et c'est marrant parce que donc après, je me suis mise à en prendre pas mal et souvent. Si bien qu'à des moments, c'est moi qui lui en demandais en fait, qui disait, on appelle quelqu'un, qui en a, etc. On peut demander un tel. Et lui, il était un peu en mode, ah, tu vois, hein, tu disais non, puis maintenant c'est toi, je te la bats. Et puis ça a commencé à être violent en fait. Il m'a dit un jour, Amandine, t'es un cancer. En hurlant au téléphone, Amandine, t'es un cancer. Ça avait fait mal. Et j'ai bien l'impression que, de nous deux, la seule personne encore malade de l'autre, c'est moi. Qui a été le cancer de l'autre? Qui, sous le regard de l'autre, s'est tue, s'est éteint, s'est courbé? C'est souvent moi qu'impulsait la dispute. Ouais, ça va pas ce que tu fais, nanana, nanana. Et par contre, quand il montait dans les tours, genre, c'était impressionnant. Il était un peu hystérique, ce mec-là. J'ai vraiment des souvenirs où je suis assise sur un canapé, il est devant moi, vraiment à 1 cm de mon visage, et il me hurle dessus. En fait, comme on buvait beaucoup, il y a des soirées où je me souviens pas de tout, mais j'ai des souvenirs où je me réveille, j'ai des bleus plein les bras, lui aussi. Ah, je me suis mis la tête dans une vitre une fois, quand même. J'ai pas cassé la vitre, mais je me suis mis la tête dans une... Bah ouais, tu sais, c'était des... J'étais dans le hall de mon immeuble et je sais plus... Il est sorti, il veut pas rentrer. Quand tu prends l'habitude de t'embrouiller avec quelqu'un, que ça monte, au bout d'un moment, ça monte pour rien, quoi. Et les derniers mois, ça montait pour rien. Il a mis la main dans une vitre aussi, une fois chez moi, je me souviens. Il a cassé la vitre. Et en fait, il y a un moment où moi, je me suis mise à faire absolument attention à tout ce que je disais, à tout ce que je faisais. Parce que je savais que le moindre truc pouvait... Et c'était comme ça tout le temps, en fait. Tu sais que t'es pas dans le bon endroit, tu sais que c'est pas du tout la bonne personne, que ça marchera jamais, que ça va être pas bien du tout, je le savais. Et en fait, on est allé à Bordeaux parce qu'il voulait changer de vie. Il voulait faire de l'ostréiculture ou autre. Donc, on allait en week-end dans ces coins-là pour qu'il fasse du repérage, pour que machin... Et j'y allais, alors que je savais, en fait, qu'on n'allait jamais aller habiter à Bordeaux ensemble. Je le savais, au fond de moi. Et il m'avait dit, bon, bah, on se trouve un endroit là-bas, nanana, et puis, dans quelques mois, tu fais enlever ton stérilet. Et on le disait aux gens, c'était le projet, on va faire un bébé. Et je disais, ouais, ouais. Mais il y avait ma petite voix, je savais que jamais je ferais un enfant avec cette personne-là, et que ça allait pas se passer, en fait.
Au fil des pages, Amandine s'interroge sur les raisons qui ont fait qu'elle s'est accrochée à une histoire qui lui faisait tant de mal. Elle écrit « Je me pose en victime. »
Je me sens victime de lui.
Est-ce qu'il s'est senti être ma victime ?
Une victime agresseur. J'ai l'impression que la personne qui m'a fait le plus de mal, c'est moi-même, en fait. Je me suis complètement oubliée. Alors que j'avais ma vie et qu'elle était cool, ma vie. Et il a un peu tout saccagé. Mais je l'ai laissé, quoi. J'ai ouvert la porte, j'ai dit « Vas-y, brise tout ce que tu veux. » Casse tout. Comme les salles là où les gens ils ont le droit de passer leur nerf. Parce qu'il est arrivé à un moment où pour moi, je dis professionnellement, mais je pense que quand tu veux, tu vois, être comédienne, ou c'est plus que professionnellement. C'est un rêve, tu vois, c'est une ambition, c'est ça remplit toute une vie. Et en fait, il est arrivé à un moment où j'étais un peu à un carrefour d'un truc de... Ça commençait à être compliqué, la vie pro, là, ça faisait pas longtemps que j'avais arrêté l'école, la compagnie, ça chantait bien que j'allais pas en vivre, que c'était un peu compliqué et tout. Et donc, il a été une porte de sortie, un peu. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il m'avait menti, en fait. C'était comme si, implicitement, il m'avait fait une promesse de « ça va être ça, notre vie », et qu'en fait, notre vie, c'était de la merde. J'ai commencé à être pas gentille, à lui faire des réflexions, à lui faire des reproches tout le temps. « Tu bois trop, t'es encore défoncé. Tout d'un coup, de toute façon, j'avais plus la force d'aller en répétition. Parce que j'étais tout le temps le lendemain de cuite. Et puis j'étais tout le temps triste, et puis j'avais tout le temps envie d'être avec lui, il fallait qu'on soit tout le temps ensemble et tout. C'était vraiment ma vie, quoi. J'étais concentrée sur lui.
Grâce à l'écriture, mais grâce au temps aussi, Amandine se relève. Et un jour, elle se sent assez forte pour reprendre le cours de sa vie. Elle revient à Paris. Elle écrit.
Je suis revenue. Un jour, j'ai décidé. Je reviens. Cette ville est ma ville. Je suis revenue. Persuadée que j'y arriverais, que j'irais pas le chercher. Que le manque se diluerait dans les bruits des voitures, dans les sirènes du métro, dans la rumeur de nos vies bruyantes. J'appelle, je l'appelle en inconnu. Dièse 31 dièse. Une fois, deux fois, trois fois. Il est 3h14. La troisième, il répond. Allô ? C'est Amandine. Ça va ? On peut se voir, je suis en direction de chez toi. J'allais sortir mon chien. Antoine vit dans une impasse. Il est là avec son chien. Et quand je le vois, je veux l'embrasser comme on embrasse un enfant qui revient du monde ou de la guerre. Je l'aime comme on aime un enfant. Je me sens libérée de quelque chose, moi qui ai l'impression de le porter à l'intérieur depuis des mois comme un cadavre trop lourd. Je le vois là, dans la rue, exister tout seul, exister ailleurs que dans ma tête, que dans le creux de mon ventre. Et je dois oublier de me demander à quoi il avait servi d'être parti. Se retrouver encore là, à 3h du matin, devant Antoine et son chien. C'est l'anniversaire d'une pote à moi, on était à Belleville. Et je vais devant les souriants. Je me dis peut-être il est là. Il est pas là, le truc il est fermé. Et je parle à une meuf qui est une ancienne collègue que je croise devant. Et elle me dit non, il vient plus souvent. Il a un chien maintenant. Et je pense que j'avais pas eu de ses nouvelles depuis un bon moment quand même. Et ouais, j'étais allée, il m'avait dit je sors mon chien. J'avais dormi chez lui. Je sais plus si on avait fait l'amour, peut-être. Ouais, j'étais contente, je crois, j'étais contente. J'ai dormi avec lui, et puis ça s'est délité. C'est vraiment, c'était fini, quoi. Putain, je me souviens, on s'était revu, j'avais passé l'après-midi avec son chien et les autres gens qui avaient des chiens à la Villette, quoi. Ça ne m'intéressait pas du tout.
À la fin du cahier, Amandine est allée au bout de la rupture.
Je voulais parler de ce moment de flottement entre le choc et la réalisation de ce dernier.
Mais comment remplir le vide qu'a laissé son histoire disparue ?
Cette seconde quand on s'entaille la peau avant que le sang arrive à la surface de l'épiderme. Cette seconde où on a l'impression qu'on pourrait remonter le temps. Que tout était intact là tout de suite, là juste avant. Que la seconde d'avant est toute proche, qu'elle vient juste de passer et qu'on pourrait la toucher. Ce moment de vide avant la désolation. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Quand je me refais un tatouage, j'ai souvent envie d'écrire « pardon ». On a souvent besoin de se pardonner des choses, et c'est pas facile de se pardonner à soi-même, je trouve. Et là, j'avais vraiment envie ce sentiment de désolation, comme si tout s'était écroulé autour et que j'étais là, putain, j'ai tout cassé, je suis désolée, je sais pas comment m'y prendre pour réparer les choses et tout, quoi. J'espère qu'il m'a pardonné aussi, je sais pas. Moi, je préfère me dire que ça a été compliqué pour tout le monde. Je sais pas, j'ai du mal à en vouloir aux gens. C'est un truc que j'ai pas trop en moi. Je me dis, en fait, on fait un peu chacun comme on peut, au final. C'est la première fois que j'arrive à me dire que je l'ai aimé de ouf et que aimer les gens, c'est toujours quand même un peu bien, quelque part, même si ça m'a fait du mal et tout. Là, d'avoir relu le passage sur quand je suis retournée chez lui dans son chien et tout, j'espère que j'aimerais encore quelqu'un aussi fort, tu vois, enfin... C'est super d'aimer les gens comme ça.
Ce qui est frappant dans le journal d'Amandine, c'est qu'il s'arrête au milieu de son cahier. Dans les pages suivantes, elle continue à écrire, mais autre chose.
Ah ouais, c'est marrant.
Une mue a eu lieu. La femme qui souffre a trouvé son clown.
En fait, c'est des sketchs.
Ouais, c'est devenu un cahier de stand-up du tout début. Ça, c'est les tout débuts.
Moi, faut savoir, en général, je tombe pas amoureuse de personne, je tombe amoureuse de problèmes. Vous savez, il y a des femmes comme ça qui ont le syndrome de l'infirmière, elles pensent qu'elles peuvent sauver l'autre. Moi, pas du tout. Moi, j'ai le syndrome de l'éboueur. Je ramasse les déchets. Lourdel, les épavistes de l'amour. Alors, j'étais là, mais t'es pas dépressif ? Ni alcoolique ? Mais rassure-moi, tu es bien un peu manipulateur, quand même. Non ? Comment tu vas faire pour me faire du mal ?
Mais je pense que si j'avais pas eu cette histoire-là, j'aurais jamais fait de stand-up, en fait.
Et c'est fou comme tout à coup, l'autre devient tout.
Et faire du stand-up, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. À partir du moment où j'ai commencé le stand-up, je sais pas, il y a une espèce de... Comme les Rumix Cube, là, il y a tout qui s'est bien mis dans le bon sens. Et du coup, je pense que c'est ce truc de, tu vois, avoir été vraiment mal, avoir été au bout, d'avoir été perdu. C'était un peu ma dernière chance. Il y a eu un petit hop, déclic. Et d'un coup, ça a pris... Et tout s'est bien passé, maintenant j'en vis convenablement.
je travaille, j'ai des projets, c'est cool quoi, vraiment. Ma vie, elle a tellement changé en fait. Et puis ça m'a un peu blindée aussi quand même. Quand j'ai commencé le stand-up, quand on m'a dit « tu vas voir, c'est hyper dur », il y a plein de gens qui disent « c'est hyper dur ». Moi, je suis arrivée, j'étais tellement déjà... J'avais déjà été au fond du seau, en fait. Je me suis retrouvée à 30 ans, pas de taf, des petits boulots, pas d'appart. Je t'ai retourné vivre chez mes parents, je savais pas qui j'étais, je me défonçais la gueule tout le temps. Enfin, je me disais, bah, franchement, on va essayer ça, ça peut pas être pire. Enfin, tu vois, moi, j'avais... Je me disais, mais moi, il n'y a plus rien à casser, en fait. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Ooh, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit. In there, swimwear, going to the pool sheet. Come now, come dry your eyes. You know you were. C'était Le Journal de ma vie, une série d'Adila Benedjaizou réalisée par Clémence Gross et mixée par Ludovic Auger. Avec Amandine L. Merci à elle, Amandine Lourdel, et à TS3 Productions.